VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Diriek et Eric Manirakiza. Bienvenue dans cette édition du mardi 10 mai 2016. Au sommaire ce soir.
Attaque armée dans la région d'Ogao au Mali, mais la situation est revenue au calme.
Nouvelle violence au Burundi, 3 morts dans le sud du pays.
Au Tchad, le régime débit tente de ramener la sérénité après la présidentielle controversée.
Visite sensible et hautement symbolique de Barack Obama à Hiroshima fin mai. C'est l'annonce de la Maison Blanche.
Sans oublier l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Attaque dans le nord du Mali. La ville de Bamba, dans la région d'Ogao, a été réveillée très tôt ce matin par des coups de feu. Des tirs qui ont duré de longues heures. L'armée contrôle toujours la ville. Les populations inquiètes ont repris leurs activités. Boubacar, notre correspondant sur place.
C'est vers 3 heures du matin, heure locale, que des individus armés venus à bord de véhicules ont ouvert le feu sur le poste de contrôle militaire situé à l'entrée de la ville de Bamba. Bamba, une localité située à quelques 200 km au nord de Gao. Le bilan fait état de 2 morts, un du côté de l'armée malienne et un du côté des assaillants. Les populations sont restées terrées chez elles durant de longues heures avant que les forces de sécurité maliennes n'arrivent à reprendre le contrôle. Le calme est revenu et les populations ont repris timidement leurs activités. Il faut signaler que la ville de Bamba a connu plusieurs attaques de ce genre, dont la dernière remonte en décembre 2015. En tout cas, la situation sécuritaire dans la région devient de plus en plus préoccupante. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Nuit de violence au Burundi, 3 personnes ont été tuées et 2 blessées par un groupe armé non identifié dans la commune de Burambi, dans le sud-ouest du pays. C'est ce que rapporte l'AFP, citant des témoins et un haut responsable burundais. Un groupe de 5 personnes en uniforme de la police a ouvert le feu dans un bar de la colline de Gishia.
Génocide rwandais, 2 ans après un premier procès en France pour les massacres qui ont fait au moins 800 000 morts en 1994. Un deuxième acte s'est ouvert aujourd'hui à Paris. 2 anciens bourgmestres comparaissaient pour leur participation présumée au génocide rwandais. Les précisions de John Lyndon.
Octavien Ngezi, 58 ans, et Tito Barahira, 64 ans, qui nient les faits, sont décrits par l'enquête judiciaire comme des donneurs d'ordre. Ils sont accusés d'avoir directement participé au massacre de centaines, voire de milliers de Tutsis en avril 1994 à Kabarondo, essentiellement des réfugiés regroupés dans l'église de cette commune de l'est du Rwanda. À l'ouverture du procès, très calme et attentif, les 2 anciens maires ont affirmé qu'ils répondraient aux questions de la cour, ne choisissant pas d'user de leur droit au silence. Les 2 hommes qui se sont succédés à la tête de Kabarondo seront jugés pendant 8 semaines pour crimes contre l'humanité et génocide. 38 jours d'audience, un procès compliqué par l'état de santé de Tito Barahira et le désistement tardif d'une magistrate qui a invoqué une clause de conscience.
Procès Simone Gbagbo à Abidjan. Le parquet a défendu la régularité du procès de l'ex-première dame ivoirienne aujourd'hui et soutenu que la composition du jury s'était faite selon les règles de l'art. L'épouse de l'ancien président, Laurent Gbagbo, sera donc jugée à partir du 31 mai à Abidjan pour crime contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Un procès politique, estime la défense.
Et dans la Corne de l'Afrique, les islamistes somaliens Shebab ont affirmé avoir repoussé dans la nuit de lundi à mardi une attaque impliquant des membres des forces spéciales américaines près de la ville de Tarataro, à 60 km au sud de la capitale somalienne Mogadiscio. Les détails avec Nanit Talani.
Des habitants ont confirmé qu'un raid héliporté mené par des troupes lourdement armées avait eu lieu pendant plus de 40 minutes sans pouvoir attester de l'identité des soldats. Dans un communiqué publié sur le compte Instagram de leur antenne radio andalouse, les Chebabs affiliés à Al-Qaïda ont indiqué avoir été informés à l'avance de l'arrivée des assaillants. D'après leur dire, les forces parties à leur poursuite ont repoussé les Américains. Il y a eu de durs combats pendant un moment. Les hélicoptères ont atterri et les ont ramassés sans qu'ils aient réussi leur mission. Selon différentes sources, Des commandos somaliens entraînés par l'armée américaine pourraient avoir pris part à cette attaque. Il n'était pas possible de déterminer quelle était la cible exacte de cette opération. De tels raids héliportés ne sont normalement menés que pour secourir des otages ou éliminer de hauts dirigeants Shebab.
Un camp de déplacés attaqué au Darfour, dans l'ouest du Soudan. 6 civils, dont 2 enfants, ont été tués, indique l'ONU. Les assaillants, des membres de tribus locales, étaient armés de mitraillettes et de lance-roquettes. Le camp de Sortoni héberge des dizaines de milliers de personnes ayant fui les affrontements entre l'armée soudanaise et des rebelles.
19 enfants enlevés le mois dernier en Éthiopie par des hommes armés venus du Soudan du Sud ont été libérés sans combat. Le Soudan du Sud est parvenu à localiser les enfants et à négocier avec les chefs tribaux pour les faire libérer, explique le gouvernement éthiopien. L'armée éthiopienne était entrée au Soudan du Sud suite à un raid attribué à l'ethnie Mourlé venue du Soudan du Sud. Plus d'une centaine d'enfants avaient été enlevés et plus de 200 personnes tuées.
Un glissement de terrain dans l'ouest de l'Ouganda. Au moins 15 personnes ont été tuées, des dizaines blessées. Quelques 200 habitations ont été détruites et des ponts ont été emportés, tandis que certains villages sont inaccessibles, indiquent les autorités locales.
La Libye, le gouvernement d'Union, annonce la création d'une nouvelle force armée chargée de protéger les sièges gouvernementaux, les postes frontières et les hautes personnalités.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Suite des primaires américaines ce mardi, en Virginie occidentale, les électeurs votaient pour les deux partis, alors que dans le Nebraska, seuls les républicains sont allés aux urnes. Pour ce qui est de la présidentielle elle-même, le républicain Donald Trump est au coude à coude avec sa rivale démocrate Hillary Clinton dans 3 états clés selon les sondages. Plus d'informations avec Miley Segal.
Le mania de l'immobilier Donald Trump fait course seul depuis une semaine, après que ses 2 derniers concurrents aient abandonné. Quant à la démocrate Hillary Clinton, ancienne secrétaire d'État et ancienne première dame des États-Unis, elle continue d'affronter le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, qui séduit les jeunes. Pourtant, même si Bernie Sanders remportait la Virginie occidentale aujourd'hui, l'avance d'Hillary Clinton paraît insurmontable dans la course à l'investiture du Parti démocrate. À 6 mois de la présidentielle, la course entre Hillary Clinton et Donald Trump en Floride, en Pennsylvanie et dans l'Ohio est trop serré pour en prédire l'issue. Dans tous les cas, les 2 candidats sont presque autant impopulaires dans ces 3 États. États pourtant décisifs, car depuis 1960, aucun candidat n'a gagné la course présidentielle américaine sans remporter au moins 2 de ces 3 États. Toujours selon des sondages, si Bernie Sanders remportait finalement l'investiture démocrate, il battrait en revanche Donald Trump dans ces États.
Miley Segal, Barack Obama ira fin mai à Hiroshima, devenant le premier président des États-Unis en exercice à se rendre dans cette ville japonaise détruite par une bombe atomique américaine en 1945. L'objectif de ce déplacement n'est pas de réexaminer la décision prise il y a plus de 70 ans d'avoir recours à l'armée nucléaire, mais d'offrir une vision tournée vers l'avenir, a souligné aujourd'hui la Maison Blanche, consciente du caractère sensible de cette visite hautement symbolique. Les attaques sur Hiroshima, rappelez-vous, avaient emporté 140 000 personnes, puis sur Nagasaki, 74 000 de 3 jours plus tard. Et les mêmes attaques avaient précipité la capitulation du Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale le 15 août 1945.
Une réunion du groupe international de soutien à la Syrie, coprésidée par la Russie et les États-Unis, est prévue le 17 mai à Vienne. C'est ce qu'a annoncé la diplomatie russe. Cette réunion doit intervenir au moment où la Russie et les États-Unis se sont engagés à redoubler d'efforts pour aboutir à un règlement politique du conflit syrien.
Les alliés bavarois du parti de la chancelière allemande Angela Merkel ont accepté ce mardi de renoncer à la poursuivre devant la Cour constitutionnelle pour sa politique d'ouverture aux migrants, dans un premier signe d'apaisement après des mois de querelles internes sur le sujet.
Les autorités canadiennes et les compagnies pétrolières se rencontraient aujourd'hui pour évoquer la reprise de l'exploitation et le retour des employés dans la région dévastée par les feux de Fort McMurray. Pendant que les travaux de réhabilitation des réseaux d'eau et d'électricité ont commencé, les services des pompiers avec les équipes spécialisées des entreprises ont dégagé, avec des engins de chantier, de larges bandes de forêt et de broussailles autour des sites pour éviter qu'avec les vents, les flammèches ne se propagent sur les installations.
La France est attachée au maintien du statu quo sur les lieux saints à Jérusalem, ville qui appartient à tous les croyants, a réitéré aujourd'hui mardi le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, interrogé sur le vote par la France d'une résolution de l'UNESCO ayant provoqué l'ire d'Israël.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. La Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le Rwanda a signé un contrat de financement de l'énergie avec l'Union européenne de 177 millions d'euros visant à assurer l'accès à l'électricité à 70% de la population d'ici 2018. L'énergie est l'une des principales priorités pour le gouvernement du Rwanda, a dit le ministre des Finances Claver Gatete, ajoutant qu'il était vital pour le pays d'atteindre le statut de revenu moyen d'ici 2020, soit 1 045 $ par habitant. Le Rwanda se situe à environ 700 $ par habitant. La Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun a financé les prestations sociales à hauteur de 65 milliards de francs CFA au cours de l'exercice écoulé. Chiffre révélé lors des rencontres e-talk à Douala. Le thème central portait notamment sur la revalorisation des allocations familiales, conformément à un décret présidentiel portant sur une revalorisation de 55%. Le gestionnaire sud-africain de fonds de pension, Public Investment Corporation, a dégagé 70 milliards de rands d'investissement pour les trois prochaines années, selon le vice-ministre des Finances, ce qui permettra de stimuler la croissance économique dans certains secteurs tels que l'énergie, l'exploitation minière et l'agriculture, selon Msebizi Jonas, ajoutant que cela permettra également de créer des emplois.
Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgan.
L'Éthiopie a un nouveau sélectionneur.
Oui, Germédine Haïlé a été nommé sélectionneur par intérim en remplacement d'un autre technicien local, Johannes Salé. L'actuel entraîneur du club des Defense Force devra tout faire pour qualifier les Walia qui ont encore deux matchs à jouer contre le Lesotho le 5 juin à Maseru, puis contre les Seychelles, ce sera le 2 septembre à Addis Abeba.
Autre départ en Égypte.
Alexis Maklish n'est plus l'entraîneur du Zamalek. À peine plus de 2 mois après son arrivée, l'Écossais a décidé de jeter l'éponge. Le torchon brûlé entre le manager et ses dirigeants après le limogeage de 2 de ses adjoints au cours des dernières semaines. Arrivé au mois de février en remplacement de Mido, Maklish présentait un bilan honorable de 6 victoires en 10 matchs et une qualification pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Il ne sera resté que 65 jours en poste contre 37 pour son prédécesseur.
L'Agence mondiale antidopage a annoncé l'ouverture immédiate d'une enquête portant sur le dopage supposé de 4 athlètes russes sacrés champions olympiques lors des JO 2014 d'hiver à Sotchi.
D'après Stepanov Rodchenkov, qui a démissionné du laboratoire antidopage russe en 2015, il lui aurait également affirmé que le service fédéral russe de sécurité a tenté de contrôler toutes les étapes de contrôle antidopage à Sotchi.
Et enfin, la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Miami est revenu à égalité, 2 victoires partout dans la demi-finale de la conférence Est qui l'oppose à Toronto en s'imposant 94-87 après une prolongation. C'était hier soir en Floride. Dwayne Wade s'est montré décisif en inscrivant 30 points au total, en égalisant à 12 secondes de la sirène avec une interception conclue par un dunk en prolongation. Le 5e match aura lieu mercredi au Canada. Dans l'autre match de la soirée, les Golden State Warriors, avec Stephen Curry de retour de blessure, ont battu Portland 132-125. Curry, qui sort d'une blessure au genou, a été déterminant dans ce match. Il a terminé avec 40 points, dont 17 en prolongation. Les Warriors qui mènent la série 3-1. Et à noter que ce mardi, Stephen Curry a été officiellement désigné MVP, le meilleur joueur de la saison régulière NBA, et ce pour la 2e année consécutive.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Banque Ndiriek et Eric Menirakizan, votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, N'Djamena.
Oui, Morgane, les Tchadiens attendent toujours de connaître les changements qu'introduira le président Idriss Déby Itno, dont la réélection a été confirmée par le Conseil constitutionnel. Pour leur part, les principaux adversaires du chef de l'État tchadien se disent déterminés à poursuivre leur bras de fer avec lui. Toutefois, certaines sources font état d'efforts de la part du pouvoir en vue de ramener la sérénité dans la vie politique nationale. Pour un éclairage, Timothée Donangmaï a joint N'Djamena le politologue Ama Mahama Hassan.
Le Tchad est aujourd'hui dans une situation malheureusement de deux configurations traditionnelles, le nord et le sud, parce que les résultats donnés font que le président Déby, réélu et confirmé par le Conseil constitutionnel, semble avoir fait le plein dans la zone septentrionale, notamment le nord, des cultures arabo-musulmanes. Et le sud semble avoir été contrôlé par l'opposition, notamment les élus du sud. Il se trouve que le vote identitaire et le vote de rejet, le vote sanction, je veux dire, a beaucoup marqué cette consultation. Le résultat fait que nous sommes dans une sorte de malaise. Malaise général dû à la crise sociale, malaise général dû à une présentation d'un pouvoir qui a une forte légitimité au nord, mais qui a un déficit de légitimité au sud, qu'il fallait absolument en urgence trouver les mécanismes d'équilibre pour pouvoir sauver le Tchad et notamment enlever la mentalité de la division, de l'identification nord-sud qui a toujours marqué ce pays-là, heureusement pour le Tchad, qui n'a pas conduit à des situations assez graves.
Certaines informations font état d'appel du pied du président Idriss Déby Itno en direction de ses adversaires. Certains de ses adversaires, comme le maire Lauke Médard de Moundou, excluent toute collaboration avec le président. Comment on va parvenir à recoller les morceaux?
Je ne pense pas que le candidat Lauke Médard, qui contrôle pratiquement le vote du pays, dit le groupe Sarraj, le Delogon, le Moundou et le Moïchari, même s'il n'a pas beaucoup de scores au niveau du pays, je veux dire du pays banana, notamment dans le Moïcube Ouest ou Est. Je l'ai écouté parler, mais je ne pense pas qu'il soit si rigide, comme vous l'affirmez ou vous le comprenez. Le président Déby également a changé un peu de discours parce que maintenant il parle de dialogue, qu'il est disposé, qu'il est le président de tous les Tchadiens. Alors je pense qu'il y a une disposition des uns et des autres, mais je crois que nous sommes dans une sorte de petite transition d'attente parce que chacun arrête les stratégies pour ne pas donner le plus fort en matière de politique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut céder, qu'est-ce qu'il ne faut pas céder, etc., etc., et qui se traduirait par un accord. Mais alors chacun fait la ruse pour ne pas donner plus de pouvoir à l'autre, ou bien en associant l'autre, il ne faut pas que cette association lui donne une sorte de capacité de nuisance plus tard.
Le politologue Ama Mahama Hassan en N'Djamena.
Dans Washington Forum cette semaine, la République démocratique du Congo est le bras de fer entre la société civile qui veut empêcher Joseph Kabila de briguer un troisième mandat et le pouvoir. Climat tendu aussi avec l'opposition et la récente audition devant la justice de Moïse Katumbi. À quand la tenue d'élections? Quelles seraient les conséquences d'un report? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
En Afrique de l'Ouest, les affrontements intercommunautaires entre agriculteurs et éleveurs peuls se multiplient. Dernier exemple en date, le Mali. Des combats entre peuls et bamanans à Kariri, dans la région de Mopti, au centre du pays, ont fait plusieurs dizaines de morts. Une mission gouvernementale a été dépêchée sur place pour veiller au retour de l'administration et la création d'un poste de sécurité dans la zone. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
Les affrontements intercommunautaires de la semaine passée à Tenoku ont occasionné la mort d'une vingtaine de personnes et le déplacement en masse de nombreuses populations vers d'autres localités. Abba Ibrahim Abba, maire de la commune rurale de Nampala.
Les victimes, c'est les 80% sont de Nampala, de ma commune. Seulement, ce que je viens de dire, les ministres sont très bienvenus. Ils sont venus à temps aussi. Rien ne vaut la paix. Ce qui s'est passé, c'est passé. Ça s'est déjà fait. Les morts sont partis, ils ne vont pas revenir. Mais seulement, pensons à ramener la paix dans notre pays.
Dans le fait de l'action, pour ne pas dire au moment des affrontements, une première mission gouvernementale avait passé afin de rappeler les deux parties au calme et d'arrêter les affrontements. Mohamed Hadj Erlaf, ministre de la décentralisation et de la réforme de l'État.
Globalement, l'objectif de la mission a été atteint parce qu'il s'est agi dès le déclenchement des hostilités dont vous avez entendu parler, de venir ici essayer de trouver le calme nécessaire à la réflexion qui va nous conduire à toutes les opérations un peu plus longues de réconciliation. Cet objectif a été atteint. Donc, la commune de Kareri sera sécurisée par les forces armées et de sécurité.
Le gouvernement s'est réjoui, car après avoir écouté les deux parties, intérêt d'entente a été trouvé, ce qui rassure le ministre Hadj Erlaf.
Nous avons déjà la preuve que les populations se sont réconciliées, parce que la population peut, en quittant, laisser ces animaux. Et la communauté Bambara a promis qu'aucun de ces animaux ne mourra de soif, parce qu'elles vont garder cette fortune. C'est la seule que les nomades ont, en attendant que tous ceux qui ont fui de peur de représailles ne reviennent dans leur site de fixation d'origine.
Comme garant de cette entente, les élus de la localité, avec à leur tête les députés de Ténankou, le doyen Abdraman Niang.
Le mardi prochain, les principaux membres de cette commission vont se retrouver à Bamako pour élaborer un programme de travail avec le soutien du gouvernement. Donc nous sommes optimistes.
Le chef de la délégation gouvernementale a donné des assurances quant au respect des clauses de cette nouvelle paix retrouvée. Selon le ministre Amadou Konaté, l'État jouera sa partition afin de restaurer la paix totale. Aucun affrontement ne sera permis entre les communautés sur le territoire malien, a ajouté le ministre Konaté. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Du 9 mai au 8 juin prochain, le Togo protège sa population contre trois maladies tropicales négligées, notamment l'onchocercose, les géohelminthiases et les schistosomiases. Il s'agit de campagnes de dérapage, de déparasitage couplées avec des sensibilisations sur l'hygiène et l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Le reportage de notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
La campagne de masse contre les maladies tropicales négligées MTN veut répondre aux souhaits des autorités togolaises d'éradiquer certaines pathologies sur leur territoire. Elle vise notamment à intensifier les actions en vue de soutenir les résultats obtenus ces cinq dernières années. Edmond Kofi Sonikin, point focal MTN au ministère togolais de la Santé.
De 2009 à 2015, la couverture nationale des géohelminthiases a baissé de 33% à 11,6%. Les schistosomiases également, les prévalences ont baissé de 23% à 5%. Par rapport à l'onchocercose, le Togo veut passer du contrôle à l'élimination. Donc, il faudra intensifier les traitements de masse.
Qu'est-ce qui sera fait au cours de cette campagne? Des explications avec Akofa Yao, point focal MTN dans le district sanitaire du Golfe.
Au cours de cette période, nous allons administrer des produits tels que l'albendazole et le praziquantel. Donc, dans notre zone, c'est-à-dire dans le district du Golfe, selon la prévalence, nous aurons à traiter les enfants d'âge scolaire, c'est-à-dire les 5 à 14 ans, à l'albène. Maintenant, par rapport aux schistosomiases, les aires sanitaires qui auront à traiter au praziquantel, c'est toute la population exclue les moins de 5 ans.
Yawa Hazou est agent de santé communautaire ASC. Durant cette campagne, elle aura à sillonner les maisons pour mener à bien sa mission. Une mission dont elle nous parle.
Lors des campagnes, on sensibilise la population d'abord. On n'est pas des maladies tropicales négligées. Comment on l'attrape, comment l'éviter et comment faire pour être traité. Pour la filarie lymphatique, on apprend aux personnes malades comment faire pour être soulagées.
Cette campagne ne peut réussir sans l'apport des ASC qui ont été formés pour diverses tâches. Nous retrouvons le point focal MTN Golf à Kofa Iao.
Il y aura aussi la sensibilisation par rapport à certains comportements de la communauté pour pouvoir prévenir certaines maladies tropicales négligées.
Kailasson Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
Cap sur l'Éthiopie, le pays qui traverse sa pire sécheresse depuis des décennies, fait face à une pénurie alimentaire. Les enfants les plus vulnérables tombent malades et ne peuvent plus aller à l'école. Dans la ville de Métara, dans le centre du pays, la plupart des citoyens dépendent de l'aide humanitaire. La Voix de l'Amérique est partie à leur rencontre. Tatiana Mosso.
Plus de 10 millions d'Éthiopiens ont besoin d'aide alimentaire d'urgence en raison de la sécheresse. Beriti Yawas a été admise à la clinique avec son enfant de 3 ans.
Mon bébé est tombé malade parce qu'il n'y a pas de nourriture.
Tout le bétail est mort, du coup les enfants ont cessé d'aller à l'école pour aider leur famille. Le gouvernement éthiopien collabore avec les organisations humanitaires en fournissant de la nourriture à quelques 6 millions d'enfants.
Les enfants exposés à la malnutrition et à la famine risquent d'avoir un développement lent du cerveau, endommager leur capacité de réflexion. Cela peut aussi aggraver la diarrhée.
Plus de 800 millions de dollars d'aide d'urgence ont été alloués, mais le gouvernement éthiopien et l'Organisation des Nations Unies estiment qu'il faudra 1,4 milliard cette année. La majeure partie de ces fonds servira à fournir de la nourriture. Pour Alko Boultoum, l'aide humanitaire est le seul moyen de nourrir ses 6 enfants.
Avec la sécheresse, tout ce que nous avons, c'est le soutien du gouvernement. Nous n'avons rien à la maison, nous n'avons rien pour nourrir nos enfants, nous n'avons pas d'eau potable non plus.
L'aide alimentaire sera nécessaire en 2017 en Éthiopie et dans d'autres régions d'Afrique orientale et australe, également touchées par la sécheresse. Une situation qui serait causée par le phénomène El Niño.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Et c'est la fin de cette édition mise en onde. Georges Léonard Sagnon à la console, Linas Romkos, présentation Morgane Guiriec et Eric Manirakis.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La conversation se poursuit sur Facebook où vous pouvez partager ce qui fait l'actualité chez vous ou ce que vous pensez de nos émissions. Posez aussi des questions pour nos programmes interactifs et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.